France Info.
France Info. C'est une entrepreneur heureux que nous recevons ce dimanche dans Femmes d'exception. Bonjour Margaret Milan.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice d'Éveil et Jeux, devenue ensuite Fnac Éveil et Jeux, aujourd'hui Auxibule. C'est l'histoire d'une success story, commencée seule dans votre garage. C'était en 1989. Vous veniez de passer 7 ans au marketing chez Procter & Gamble. Quel a été le déclic pour changer comme ça radicalement de carrière?
C'est une combinaison de plein de choses. Évidemment, l'arrivée d'un bébé est toujours un moment... c'est un peu un onde de choc dans la vie d'une femme. Tout d'un coup, la vie change de manière importante. On se met à réfléchir à d'autres choses. Et c'est vrai que j'avais toujours eu une petite envie d'entreprendre quand même. Chez Procter & Gamble, je voyais bien qu'il y avait 7-8 couches de bonhomme au-dessus de ma tête avant d'être vraiment le patron. Et je me disais, ça va être long quand même. Donc j'avais cette idée d'entreprendre qui me tournait quand même dans la tête. Et quand j'étais en congé maternité, j'ai commencé à réfléchir. J'ai quand même repris le boulot chez Procter après l'arrivée du bébé. Mais bon, la petite graine de l'idée de l'entrepreneuriat a été plantée. Et après 2 ans, je me sentais assez mûre pour faire le saut, effectivement, et commencer à chercher la bonne idée. Parce que, en fait, je suis partie d'abord de l'idée, je voulais être entrepreneur, et après, il fallait trouver l'idée.
Quoi ? Voilà. Alors, je crois qu'au début, de vos origines écossaises, vous vouliez vendre des pulls écossais, il me semble avoir lu quelque part.
Vous êtes
bien
renseignée.
Comment vous en êtes arrivée sur les jeux d'éveil.
Alors au début, effectivement, quand on veut être entrepreneur, on regarde autour de soi, hein, on trouve les idées dans sa propre vie. Par le hasard, j'avais trouvé cette entreprise en Écosse qui faisait des pulls assez rigolos, qui racontait des petites histoires avec des images très drôles. Et j'ai passé 6 mois à faire du porte-à-porte dans les boutiques parisiennes. Et puis quand même, j'ai vraiment eu assez d'attendre 2 heures que les gens daignent me voir. Je trouvais qu'être intermédiaire n'était pas intéressant. J'avais envie de raconter des histoires directement au client final parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant. Et finalement, j'ai démarré peut-être 20 ans trop tôt avant le web, mais cette idée de parler directement aux clients était quelque chose vraiment qui me travaillait. Donc j'ai compris des choses sur moi. J'ai compris que je ne voulais pas être commerciale et que je voulais être en direct. Donc de là, bon, on regarde dans sa propre vie. Et je voyais dans ma propre vie que je ne trouvais pas des jouets intéressants pour mes enfants en France. J'allais les acheter en Écosse quand je retournais voir les grands-parents. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, il y a une place pour ça en France et c'est parti de là.
On le voit, c'est un long cheminement, hein. Il y a eu beaucoup de réflexions de votre part.
Hein. Ouais, c'est très long. D'ailleurs, je travaille beaucoup aujourd'hui avec des jeunes entrepreneurs qui démarrent et je leur dis toujours au début, on est dans le brouillard quand on est entrepreneur. On démarre avec une vague idée. On démarre surtout avec une envie, un besoin. Les Américains aiment parler de point de douleur. Il faut identifier quelque part un point de douleur, quelque chose qui manque, un manque, et trouver des solutions pour ça. Et pour moi, c'était où est-ce que je vais trouver ces jouets.
Alors, vous parliez de ce point de douleur. L'une des idées aussi de devenir votre propre patron, c'était de vous rapprocher alors, de votre première fille qui venait de naître. Est-ce que vous avez réussi ou est-ce que de devenir comme ça auto-entrepreneur, ça vous a pris un temps considérable et vous n'avez pas vraiment gagné sur cette partie-là?
Alors, en fait, ce qu'il faut toujours voir, c'est pas tellement une question de temps, mais une question de liberté. Et moi, j'avais, je pense, une très grande envie de liberté. Et j'avais envie d'avoir une maîtrise de mon temps et de mon agenda. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai travaillé différemment. J'ai travaillé après le coucher. Il se trouve qu'à l'époque, mon mari était consultant international. Il voyageait beaucoup. Il était souvent à droite et à gauche. Donc, les enfants couchaient à 7-8 heures. J'avais le temps.
Justement, votre mari, vous en parlez. Il est venu vous rejoindre ensuite dans cette entreprise qui est devenue une entreprise familiale. Ouais. C'était facile de travailler en famille?
Oui, c'était très amusant. Parce qu'en fait, il est venu rejoindre l'entreprise au moment où ce qu'on appelle le business model était au point. Donc, j'avais fait beaucoup de tests. J'avais un peu sorti du brouillard parce que je voyais effectivement quelle était l'offre produit. Je voyais quel était ce qu'on appelle le modèle économique, comment on allait trouver des clients, faire grandir l'entreprise. Et je lui avais dit un jour, j'ai quand même vraiment besoin d'un directeur général parce que là, quand même, il y a beaucoup de choses à faire et moi toute seule, je peux pas les faire tous. Il faut que je trouve quelqu'un. Et de fil en aiguille, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il a décidé de sauter le pas et c'était super courageux de sa part parce que qu'il avait un gros job et gagnait très très bien sa vie. Et en fait, est-ce que c'est difficile? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant parce que on est très complémentaires. On a vraiment des qualités très différentes. Donc moi, je suis toujours la femme du, je dirais, le front, le client, le produit, l'offre, etc. Et mon mari était l'homme des systèmes, des opérations. Et c'est vrai qu'on est très complémentaires, chacun avec son domaine. Et je pense que c'est ça qui est important quand on travaille ensemble.
Vous avez su aussi prendre les bonnes décisions au bon moment. Il y a eu le rachat par PPR, Printemps Pinot La Redoute, le virage Internet aussi. Fnac Éveil et Jeux était alors un acteur majeur dans le top 15 des sites marchands en France, premier site européen quand même de jouer. C'est de l'intuition, vous disiez aussi beaucoup de travail. Comment est-ce qu'on arrive à anticiper comme ça le marché?
Alors effectivement, c'est beaucoup de travail. On a beaucoup de chance quand on est dans le métier aujourd'hui d'Internet, d'e-commerce. À l'époque, c'était de la VPC au début. Et puis comme vous dites, après Internet. On a beaucoup de chance parce qu'on est en lien direct avec le client. Donc on est vraiment à l'écoute. On est à l'écoute de tous les signaux faibles qui arrivent. Et quand vous faites quelque chose, quand vous essayez quelque chose, vous avez tout de suite la réaction. Moi, j'ai trouvé ça magique. Je changeais quelque chose sur un catalogue. 8 jours après, j'avais la réponse. Je savais si j'avais
juste ou pas. Grâce aux parents testeurs, vous aviez les avis tout de suite.
Les parents testeurs, effectivement, qui essayent les produits, mais aussi en envoyant un mini-mailing. Quand j'ai démarré, j'ai envoyé 1000 catalogues et les professionnels du métier disaient « Mais vous n'allez rien voir avec 1000. » Je dis « Mais si, sur 1000, j'ai 250 commandes. Je vois très bien ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui plaît aux clients. » Donc, j'étais beaucoup dans cette modalité de test and learn. Excusez-moi tous les anglicismes, mais c'est vraiment tester des choses et apprendre. Et comme ça, on ne prend jamais de risque majeur, en fait. On fait plein de petits tests et on avance.
Vous êtes d'origine écossaise, je le disais. Vous étiez au lycée à Aberdeen. Ouais. À l'époque, vous rêviez d'être ingénieur sur une plateforme pétrolière. Qu'est-ce qui vous a empêché de concrétiser cette envie?
C'est vrai, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai grandi à Aberdeen à l'époque où on a découvert le pétrole. Et j'ai vu cette ville passer d'une ville de pêcheurs plutôt en déclin à une ville vraiment en très forte croissance, avec des opportunités partout. Et je trouvais ça assez magique d'aller sur une plateforme. À l'époque, ce n'était pas possible pour les femmes. J'ai fait des études d'ingénieur en Angleterre et puis j'étais la seule fille dans la classe. J'ai fini par comprendre que ça allait peut-être être un peu difficile.
Ça a joué ensuite, par la suite, dans votre engagement contre les discriminations entre les hommes et les femmes dans le monde du travail?
Quelque part, oui, parce que je suis de la première génération qui pensait que vraiment tout était possible. C'est vrai que, je veux dire, je pouvais aller dans l'école où je voulais, je pouvais faire des études d'ingénieur et il nous semblait que tout était possible. Et puis petit à petit, je me rends compte que oui, ça va être un peu difficile, c'est pas évident d'avoir un stage parce que je suis la seule fille et je suis un peu un ovni, etc. Donc je dirais oui, c'était la première petite prise de conscience que c'était pas si facile que ça.
Et ensuite, il y a eu les études à Harvard, vous êtes diplômée de cette prestigieuse université américaine. Cette expérience américaine, elle vous a aidé aussi à passer le pas, à vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat?
Alors effectivement, l'expérience américaine, c'est extraordinaire parce que les études à Harvard, c'est quoi? C'est que vous êtes 3 fois par jour mis en situation où vous êtes un chef d'entreprise face à un problème super difficile. Et donc, vous avez 20 pages de cas à lire et vous devez vous mettre à la place du patron et dire qu'est-ce que je ferais. Et on voit que ce n'est pas si simple. Et donc, pendant 2 ans, vous faites ça. Vous avez vraiment l'impression d'avoir vécu la vie de toutes les situations d'entreprise et ça donne du courage pour y aller.
Alors, aujourd'hui, vous vous dites clairement féministe. Ouais. Vous avez d'ailleurs cofondé le premier réseau européen de femmes cadres. Pourquoi? Parce que l'union fait la force? Parce qu'au début, justement, pour Éveil et Jeux, vous vous êtes sentie assez seule?
En fait, tout le temps où j'étais chez Éveil et Jeux, je n'ai pas eu de soucis parce que j'ai créé l'entreprise à ma manière et à ma façon. Donc, je n'ai pas eu de problème. Mais quand même, quand j'ai cédé l'entreprise à la Fnac la première fois en 2001, je me suis mis à réfléchir. J'ai 2 filles qui sont maintenant des adultes. Je me disais, mais c'est quoi finalement les choix de carrière pour elles? Parce que je regardais autour de moi, je voyais peu de femmes chefs d'entreprise. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ça fait une génération que tout est a priori possible sur le plan de l'ouverture des écoles et des études. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de femmes dans les instances de décision? Parce qu'en fait, c'est ça la question aujourd'hui. C'est pas est-ce qu'il y a des femmes dans les entreprises? Il y en a partout. La question, c'est mais elles sont pas là dans les places de décision. Et puis, il y a les parcours de carrière. C'est quoi les parcours de carrière? Il faut quand même passer le cap de la maternité. C'est quelque chose d'important. Et puis, c'est les pratiques dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où les pratiques sont juste d'un autre âge. Quand on regarde les banques, les cabinets d'avocats, on fait travailler les gens la nuit, le week-end. C'est pas possible, c'est d'un autre âge. Donc, il faut repenser tout ça.
Et c'est en train de changer. Il y a eu beaucoup de textes législatifs aussi qui sont passés.
Il y a des choses qui changent. Et il reste une chose qui est extrêmement dure à surmonter, c'est le stéréotype. Je pense que le problème des stéréotypes est intime. c'est ancré dans les gens. Et c'est très difficile pour chacun de dépasser son propre couple, son propre vécu, l'expérience de ses propres parents, pour dire voilà comment on peut vivre dans une société qui est réellement mixte en termes d'opportunités.
Cette journée de la jupe, alors organisée vendredi par des lycéens à Nantes, c'est quelque chose qui va dans le bon sens aussi ?
Ben, je trouve que les garçons qui viennent à l'école en jupe, je trouve ça extraordinaire, je trouve ça très très drôle.
Courageux aussi peut-être ?
Je pense que c'est courageux, mais surtout c'est bien de prendre avec un peu d'humour ces conservatismes qui mélangent tout finalement. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'identité sexuelle, on est en train de parler de stéréotypes et du champ des possibles pour les hommes et les femmes. Mélangeons pas tout.
Merci beaucoup Margaret Milan d'avoir évoqué avec nous votre parcours, votre engagement aussi pour l'entrepreneuriat au féminin. Vous pouvez retrouver cet entretien filmé sur franceinfo.fr à la page de Femmes d'Exception.